Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans l'émission Les Faramineux. Alors nous débutons cette semaine au programme, eh bien, on va parler théâtre. Donc on reçoit Julie André Rangé-Beauregard pour son adaptation de la pièce de théâtre 4 filles qui est tirée de l'œuvre autobiographique Little Women de Louisa May Alcott et qui est connue aussi sous le nom Les 4 filles du Dr March. Ça sera bien la première fois que je le verrai sur une scène de théâtre. Cette pièce se joue au théâtre Denise Pelletier du 16 mars au 9 avril. Et puis en seconde partie d'émission, eh bien comme vous le savez pour ceux qui nous suivent, le lundi, nous recevons notre chroniqueur Jamin Chtouki. Bonjour Jamin Chtouki.
Bonjour.
Et pour faire très très étonnant et sortir des sentiers battus, Jamin Chtouki nous fait son billet d'humeur qui s'appelle « Bon baiser de Russie ». Alors, attendons d'en savoir un petit peu plus. Pour l'instant...
Moi, on ne sait jamais à quoi s'attendre.
Oui, c'est ça. Pour l'instant, on part avec La chance qui nous chante Une flamme l'hiver. Et on retrouve Julianne Rangé-Beauregard tout de suite après.
Les vastes champs inégaux, incertitude des jours de fièvre, à suer les pourquoi, cracher du feu insonore. Ma bouche lasse de crier viens. Tu n'es jamais venu, tu ne viendras jamais. En bataille, communion de l'impossible rêve, trêve de désespérance, croire que l'on peut défier la vitesse de la lumière. De chaud de larmes, alors que maintenant il fait si froid.
Voilà, donc, comme annoncé, on se retrouve avec Julianne Rangé-Beauregard. Bonjour, Julianne.
Bonjour.
Ça me fait plaisir de t'avoir... Est-ce que je peux te tutoyer?
Oui, absolument. Est-ce que je peux vous tutoyer?
Ah oui, oui, bien sûr, vas-y, te gêne pas. Alors, écoute, Julianne, d'abord, je suis ravie de te recevoir. Et puis, en plus, je suis très, très intriguée parce que la pièce qui est connue sous le nom des 4 filles du Dr March, J'ai dû le voir quand j'étais petite, je t'en parle pas, chaque année à Noël ou presque.
parle du film.
Ouais. Oui, du film, je parle du film. Lu le roman et puis en même temps, je suis super curieuse de ce que tu as fait de ces féminines. Parce qu'il faut dire quand même que c'était la fin des années 1880, non? Quelque chose comme ça, quand elle l'a écrit.
Oui, ça, c'était ça? Oui, en 1868.
Ouais. Donc même ouais. avant. Donc c'était toute une gageure de faire quelque chose avec ça, de le réécrire ouais. pour qui sont les Little Women du Québec en 2022.
Oui, exactement. Ben déjà, j'ai enlevé déjà le Dr. March hein, qui a disparu.
Attends, excuse-moi deux secondes. Est-ce que tu parles avec ton tu as mis ton haut-parleur?
Non. Est-ce que vous m'entendez mal?
Ah, là maintenant ça va mieux, mais tout à l'heure ça grésillait un petit peu. C'était un petit peu haché. Okay. Bon, alors vas-y, excuse-moi, je te reprends.
Non, ça va. Ben, c'est ça, en fait, vous me direz si jamais le son fonctionne pas bien. C'est ça, d'ailleurs, on a d'abord enlevé le Dr. March qui est plus dans le portrait. En fait, on a complètement enlevé les parents de l'histoire, en fait, pour mettre vraiment la lumière sur les quatre filles. Puis la tante March qui est restée, en fait, qui avait quand même une présence dans le roman, mais qui, là, est beaucoup plus importante puis qui agit... fois comme opposante et comme aide aussi. Mais dans le fond, ce qui est intéressant aussi dans le projet, c'est que d'abord, Louis-Carl Tremblay, le metteur en scène, lui, un peu comme toi, avait vraiment un rapport super nostalgique à l'œuvre. Il l'a beaucoup écouté quand il était... Oui. Le film est sorti quand il avait 10 ans. Il l'a beaucoup écouté dans le temps des fêtes. Toujours son,
oui, ben comme moi!
Oui, ben c'est ça, exactement. Puis il y a beaucoup de gens qui ont ce rapport-là assez nostalgique, oui. Privé, en fait, avec le film d'abord. Puis moi, ben étrangement, je ne l'avais jamais vu. Je n'avais jamais lu le roman. Ma mère me l'avait offert, je ne l'avais pas lu. Alors, je suis rentrée dans cette œuvre-là complètement neuve. Puis le hasard a fait que j'avais le même âge en le lisant que Louisa May Alcott en l'écrivant. Puis c'était environ 150 ans plus tard. J'ai trouvé ça fascinant et formidable de communiquer avec elle de façon aussi directe qu'avec son livre. Puis justement, j'ai travaillé à partir de la version originale, donc à partir de la version en anglais, pour essayer d'en extraire justement ce qui, à mon sens, ne changeait pas. Essayer d'aller chercher le cœur de ces personnages-là et leur vif désir d'autonomie, mais surtout si on sort sur le passage à l'âge adulte. Donc ça, c'est quelque chose qui demeure avec le temps.
Alors, en même temps, moi, ce que je voulais savoir, c'est que nous, quand on a vu les... Enfin, moi, quand j'ai vu le film, les anciens films qui ont été faits, Dieu sait qu'il y en a eu beaucoup, on appuyait plus sur le côté... Oh, les pauvres Paris, chez mon Dieu, et les enfants, et tout ça. Alors que, quand je le relis maintenant à l'éclairage de ce qui va se passer sur la scène, c'est d'un féminisme aigu que je n'ai pas ressenti quand j'avais 15 ans ou 18 ans.
Oui, c'est vrai. Puis je dirais que le théâtre peut permettre ça, c'est-à-dire qu'on enlève, ce qu'on pourrait dire, le fla-fla autour, puis on met vraiment la lumière sur ces personnages-là, puis l'histoire est réduite, puis les personnages sont au cœur de l'histoire. Donc, on est vraiment dans l'intimité, en fait, de ces filles-là, de ces quatre filles qui deviennent des adultes sous nos yeux, qui chacune, à leur manière, revendiquent une manière d'être elles-mêmes. Et ce féminisme-là, en fait, c'est la liberté d'être soi-même avec le moins de contraintes possible. Puis à leur époque, les contraintes sont immenses.
Ben oui.
C'est très limitant, mais chacune à leur manière revendique d'être adulte, d'être femme et d'être libre, chacune à leur manière. Donc, s'il y en a une que ça passe pas par le mariage, mais pour une autre, ça passe par le mariage, puis c'est sa manière de revendiquer ce rôle-là.
Ça passe par le mariage, ça passe aussi par la légèreté et par l'envie de faire ce qu'elle a envie de faire et de choisir.
Oui. Et de choisir. Exactement.
Ce qu'on ne considère pas dans les premiers, dans les films autrement été faits à travers cette histoire.
Ouais, peut-être parce que le réalisateur était masculin et non pas féminin.
Ah, peut-être
et que
aussi.
Donc ça a été un peu
aussi.
Ils l'ont pas vu et peut-être un peu effacé.
T'as raison, Jamin, peut-être
aussi.
Peut-être
aussi. En contexte des années 40, 50, 60.
Ouais.
Oui, bien parce sûr, que... c'est vrai. Puis en plus, il y avait quand même un romantisme aussi dans les films qui était quand même là beaucoup, alors que là, c'est pas le cas. Puis en lisant le roman aussi, on voit les décisions qui ont été prises, mais nous, moi, je me suis fiée beaucoup aussi sur ce que j'ai lu au sujet de l'autrice, de Louisa May Alcott, et ce qu'elle voulait réellement faire de ses personnages, principalement Joe March, qui est le personnage principal. Elle voulait pas que ce personnage-là se marie, elle voulait pas que son destin se termine disons, dans les griffes.
Dans une fin heureuse.
Non, c'est ça. C'est pas du tout ce que le personnage revendique. Alors ça, moi, j'ai pas du tout fait cette fin-là. Donc, j'ai vraiment pris beaucoup de liberté. Puis j'en avais la possibilité. Donc, c'est une adaptation qui est très libre, qui est très... très sensible, je crois, qui va chercher justement l'intimité, ouais. L'intimité des personnages. Écoute, et du voisin aussi, leur voisin et ami,
ah ben oui,
Laurie, qui est un garçon,
évidemment.
Qui entre dans leur cercle comme une cinquième sœur, c'est-à-dire que c'est aussi une histoire de sororité, de fratrie, oui. D'amour, de solidarité entre les gens.
Mais tu vas donner le... Alors, j'ai très, très hâte d'aller voir la pièce. Et parce que ça me donne un tout autre éclairage des personnages des filles, tout en comment dirais-je, j'ai envie de dire qu'on sort de la petite maison dans la prairie pour passer
absolument.
Dans une vraie une vraie histoire avec des personnages et des femmes
oui.
qui veulent
bah
écoute,
oui.
j'ai pas su quoi trouver comme comparaison, mais c'était ce qui m'est venu pour retrouver
oui,
des femmes qui ont envie de vivre, qui ont envie de s'assumer
oui. Complètement.
C'est absolument
c'est
fabuleux,
ça.
Quoi. J'adore.
Oui, puis on a voulu jouer... Pardon?
Oui, j'adore l'idée.
Oui, mais on a voulu jouer avec ça. Le fait qu'elles sont aussi au début dans un monde assez couvé, elles sont chez elles, elles ont une certaine bulle, une certaine protection, puis rapidement, cette bulle-là éclate, puis elles vont être face au monde, en fait. Puis donc, leurs désirs vont rentrer le réel avec ce que se comporte comme difficulté. Mais aussi, sinon, on voulait plutôt traiter ça de façon romantique ou de façon...
Oui,
non, douce ou sulfureuse. On voulait vraiment... En fait, j'ai vraiment mis le focus justement sur leurs désirs, puis sur leurs aspirations, sur leurs élans, leur colère aussi, leur frustration, d'aller vraiment dans leurs émotions et leur volonté, puis les mettre au premier plan.
Ah, c'est super. Juliane, on va s'arrêter 2 minutes pour écouter une chanson. On revient tout de suite après, d'accord?
Parfait, merci.
Donc, on écoute Charlie Faron qui nous chante « Qui veut être sage ?» Eh bien, personne. Allez, on y va.
Laisse entrevoir la page qui révélera l'image de toi sans ton brossage, instinct animal. Je vois que t'en as du mal, instinct cérébral. Faut prendre le cheval est-il de Troie? Cache-moi.
Alors, on retrouve Julie-Anne.
Oui.
Toujours avec nous. Ah, on t'entend mieux maintenant. Julie-Anne, rangez vos regards.
Oui, j'ai changé de téléphone.
D'accord.
Ah, moi, je pensais que la mise dans le studio.
Non, elle n'est pas venue dans le studio. T'aurais pu venir, hein, parce qu'on était, on reçoit maintenant.
Oui, c'est vrai, on a réouvert les portes.
Oui, on a réouvert les portes, donc c'est déjà ça, c'est un moment de bonheur. Je voudrais revenir sur le texte. Quand on te donne... je sais que tu as déjà fait plein de choses et que... Tiens, en fait, ça je m'adresse à notre chroniqueur Jamin Chtouki pour te dire que notre invité a fait l'École nationale de l'humour. Ah ah!
Oh, quel dommage.
Tu vois qu'il n'y a pas...
Oui. Mais...
Non, bravo, c'est bien, bravo.
Oui, oui, mais oui, oui et non, je dirais en fait c'était un perfectionnement pour auteur, donc c'est pas comme une vraie formation longue, mais c'était une vraie formation.
C'est parce qu'il est, il tient le Théâtre de la Comédie à Montréal et qu'il fait beaucoup d'humour dessus, donc je voulais lui montrer qu'il y en avait d'autres aussi. Non, je plaisante.
Bien sûr, parce que nous, nous faisons des comédies genre vaudeville, et là c'est plus des humoristes, mais c'est bien. Comme elle dit aussi, il y a différentes palettes. Il n'y a pas que les artistes que l'on voit. Il y a le côté auteur, il y a le côté mise en scène, scénographie, etc. Et donc, vous avez fait plutôt le côté auteur.
Alors, oui, en fait, c'est pour la scénarisation, en fait, pour tout
voilà.
Le
ouais.
Pour revenir avec toi sur le texte, donc, quand on t'offre un texte pareil, parce que c'est quand même... on en riait un petit peu tout à l'heure, mais c'est quand même un monument, quoi. Ça a traversé les siècles, cette histoire. Et ça continue, donc... Comment tu t'es plongé là-dedans? Comment, par quel biais? Alors tu nous as dit tout à l'heure que tu t'étais rapproché de l'auteur en lisant dans sa langue maternelle en anglais,
oui.
Donc ce qu'elle avait voulu nous dire. Mais en même temps, quel est ton œil? Quel est l'œil que tu as mis toi personnellement? Qu'est-ce que tu as amené là-dedans dans cette histoire?
Ben en fait c'est ça, j'avais envie de, en fait en entrant dans son livre, j'ai oublié, en fait, les quarts du temps. J'ai oublié que ça avait été écrit il y a 150 ans. Puis, en fait, je voulais l'oublier aussi. Je voulais vraiment qu'on puisse communiquer, elle et moi. Mais en même temps, j'ai lu beaucoup sur elle aussi. Puis je voulais comprendre quand même dans quel contexte elle avait écrit. Puis, j'ai vraiment voulu mettre en lumière tout ce qu'elle ne disait pas aussi. Parce que je sentais à certains moments une certaine censure aussi dans l'écriture ou des scènes qui pourraient être assez troublantes, mais sur lesquelles on passe rapidement dans le roman. Puis je me disais qu'il y avait là-dedans aussi tout un
de quoi aller chercher,
fond émotif. Oui, exactement. Surtout qu'il faut quand même le préciser que pour elle, c'est un type d'autofiction, en fait, qu'elle écrit. C'est-à-dire qu'elle s'inspire de sa propre vie. Et donc, ça, pour moi, ça revêt d'une importance encore plus grande, si bien que c'est une forme de témoignage quand même d'une famille qui a existé, de femmes qui ont existé, de difficultés qui ont été vécues réellement, des émotions qui ont été vécues. Il y a quelque chose là-dedans qui est dit. Oui, du domaine du témoignage. Donc, j'ai vraiment attrapé ça. Puis c'est sûr que pour moi, ça a été de donner de la place aux thématiques qui, moi, me touchaient beaucoup. Le passage à l'âge adulte a toujours été quelque chose qui m'intéressait énormément parce qu'il y a une transformation chez l'humain quand on accède au monde adulte qui n'est pas facile. Il y a une forme d'abandon de l'enfance qui est, pour moi, je trouve assez douloureuse et qui, en même temps, on essaie de faire vivre cette enfance-là encore à travers le temps puis avec une imagination qui reste active, mais il y a quand même quelque chose qui est perdu. Puis comment on quitte une famille aussi, comment en accédant au monde adulte puis en gagnant des nouvelles responsabilités, on abandonne une part de soi aussi derrière... puis évidemment sur les masques sociaux aussi, donc comment se comporter et l'art, parce que l'art est partout dans l'histoire aussi, chacune des filles a son art, en fait il y a, l'émancipation par l'art est très importante aussi, donc c'est sûr que c'est un gros texte, c'est vrai que c'est un monument, mais comme j'avais pas ce rapport-là, j'ai
pas
été
tu l'avais jamais lu, t'as pas été appuyé, écroulé par ça, quoi.
Exactement, et je voulais pas non plus lire la version française parce que j'avais pas envie d'être influencée par le choix des mots des autres. J'avais envie d'avoir, de sentir les choses à ma manière maintenant, puis dans la langue, dans le travail de langue que j'ai fait, j'ai tenté d'avoir cette espèce d'intemporalité, on pourrait dire, entre l'époque et le maintenant. C'est-à-dire que ce n'est pas une pièce d'époque. Ça se passe en 1862, on le mentionne, mais il y a une acuité de maintenant. C'est comme si les personnages avaient une âme actuelle dans un cadre d'époque et qu'il y a une espèce de conflit constant en fait qui se fait dans l'expression de leur désir puis de leur colère et la contrainte autour d'elles, mais comme en même temps elles sont en famille, elles sont intimes, elles parlent les unes aux autres avec beaucoup d'ouverture puis beaucoup de franchise. Donc je pense qu'on est quelque part entre maintenant et avant, dans un endroit, un espace qui change pas, en fait, dans la vérité, dans l'intimité. En tout cas, c'est le travail que j'ai fait.
En fait, c'est un paradoxe aussi, parce que c'est une pièce ou une œuvre qui a un siècle et demi, mais qui reste heureusement et malheureusement d'actualité.
Ben oui, malheureusement, parce que...
heureusement et malheureusement, parce qu'on peut s'y retrouver, et c'est génial pour une œuvre qui a plus d'un siècle et demi, et puis malheureusement pour certaines thématiques. Donc c'est ça, il y a un paradoxe.
C'est ce que le metteur en scène, j'ai lu du metteur en scène Louis-Carl Tremblay quand il parle de devenir ce que l'on souhaite malgré la pression sociale. Je peux dire, j'étais en train de me dire, la pression sociale, on continue à l'avoir d'une autre manière, mais...
Absolument. Oui, parce que effectivement, c'est sûr, c'est une histoire féministe. Puis oui, on peut évidemment parler de féminisme aujourd'hui, mais c'est n'importe qui essaie d'être soi-même et qu'il y a des contraintes partout. Les contraintes sont sociales, les contraintes sont à l'intérieur de soi-même aussi, dans notre manière qu'on est élevé, dans les conflits intérieurs, tout ça. Donc c'est tout ça qui, oui, ça sera toujours actuel. Puis je pense que c'est ça qui est passionnant. Puis je pense que c'est ce qui peut résonner avec nous aujourd'hui complètement.
Alors, on arrive à la fin de cette entrevue, donc j'espère qu'on vous a donné envie d'aller voir. En tout cas, moi j'y vais, c'est sûr. C'est donc au théâtre Denise Pelletier du 16 mars au 9 avril. Voilà.
Oui.
Alors, ne ratez pas, prenez votre place. Comment tu te sens à quelques...
Ah, très bien. Moi, j'ai l'agréable posture de l'autrice, là, celle qui s'assoit dans la salle et qui savoure.
Et qui regarde. OK. Bon,
Juste analyser les points et les virgules.
Oui, c'est
ça. Exactement. Mais il faut que je respire par le nez des fois pour ça.
Mais en tout cas, bravo d'avoir eu à travailler là-dessus. Puis c'était un beau cadeau. Je pense que tu le ressens comme ça aussi.
Oui, absolument.
Et puis,
oui.
Bonne continuation et à une prochaine fois, cette fois
merci.
En studio. Et puis, merci beaucoup à toi.
Et puis, entre
merci
artistes, comme on dit dans le milieu, même si c'est un peu en avance, bonne
mère. Voilà. On dit le mot de Cambronne, mais on ne le dit pas.
Et nous l'acceptons.
Au revoir, Juliane Ranger. Bon regard avec nous. Au revoir.
Au revoir.
Donc là, on va partir en musique avec Bill Bocquet. Non, non. Et toute une personne, il nous chante. Allez, on y va.
Cette nuit, je ressens tes doutes. Je sais que dans la vie, y'a personne qui a tout. C'est sûr que sans toi, je deviens affamé. Ben oui, je le sais, tout est ta personne. Mais moi, je veux marcher avec toi à mes côtés. Puis j'aimerais bien. Ce que
je te perdais sans m'en apercevoir. Je sais que cette nuit je ressens tes doutes. Je sais que dans la vie y'a personne qui a tout. C'est sûr que sans toi je deviens affamé. Mais je sais, tout est ta personne. Pas rendu là, on fait-tu un bout? Après tout ça, on essaye-tu tous les deux de balayer le doute? J'aimerais danser qu'à toi et matin, je puisse encore passer ma main dans tes cheveux et sur tes seins. Je sais que cette nuit, je ressens tes doutes. Je sais que dans la vie, y'a personne qui a tout. C'est sûr que sans toi je deviens affamé. Je sais, tout est ta personne. C'est sûr que sans toi je deviens affamé. Je sais, tout est ta personne. Je sais, tout est ta personne.
C'est bien vrai. Bilder, voilà, okay. Tout est ta personne. Comment tu t'appelles, personne? Alors, restez avec nous. Nous allons savoir ce que Jamin Chtouki a à nous raconter à travers le titre de sa chronique « Bon baiser de Russie ». Il y en a peut-être pour certains où ça va faire un déclic. On ne sait pas où il va nous emmener.
Comme d'hab. Et je n'en dirai pas
non,
plus.
Non, j'y vais pas.
Vous verrez. Je ne vends jamais mes punchs avant, comme ça au moins. Il y a la surprise si c'est agréable et s'ils sont mauvais, personne ne s'en soucie.
Après, en deuxième partie, on parlera de tout ce qui se passe à la Comédie de Montréal.
Oui, parce qu'on peut, on a repris. On commence à reprendre un petit peu notre rythme de croisière en plus, alors, là, effectivement.
Eh bien, parfait. Alors, on en parle dans un instant. Restez avec nous. À tout de suite.
Avec Arlette Farah.
Elle me convie dans ses hauts lieux encore une fois. Elle me berce dans ses bras des lunes mères.
les rêves ne seront pas détruits.
D'entendre Dumitri qui chantait Vague. Et maintenant, j'espère que Jamin Chtouki ne sera pas vague.
Je ne serai pas vague, mais je vais faire des vagues.
Mais il va faire des vagues, oui, c'est ce qui me semblait. Pour ça, je trouvais que la chanson était bien choisie. Allez, allons-y. Allons-y, entendons.
Côté rebelle.
Qu'est-ce qui va se passer dans Bon baiser de Russie ?
Alors, je vais remercier avant toute chose Jérôme de Warzé, un ami belge, pour l'inspiration de ce texte. Alors, en 2020, les feux de forêt et le coronavirus. En 2021, le retour des talibans et des inondations. En 2022, le convoi de la liberté. En février, Big Brother célébrité à la télévision. Et maintenant, la Troisième Guerre mondiale. S'il vous plaît, arrêtez tout. Alors, d'abord, quelle est la différence entre un conflit et une guerre ? Eh bien, c'est très simple. Le conflit, c'est lorsque vous rentrez à 3 heures du matin et que votre femme vous demande où vous étiez et surtout avec qui. La guerre, c'est quand elle va fouiller dans votre cellulaire et qu'elle y trouve la réponse. Alors, quel est le problème ? Pour résumer et le dire très très vite, le Donbass est à la Russie ce que le Québec est au Canada. Un gros problème. Alors là, tout le monde est dans le gaz. Car la Russie est le plus gros producteur de gaz au monde.
Oui.
Surtout lorsque s'y trouve Gérard Depardieu. Oui, je me devais d'en parler, de ce qui se passe là-bas, la Troisième Guerre mondiale, car je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on est au bord d'une Troisième Guerre mondiale. Pourtant, je n'ai jamais joué au jeu Risque. Hein. Parce que j'entends beaucoup, on n'est pas d'accord, faut que ça s'arrête, ce n'est plus possible, ça va péter. Et là, je me suis dit, tiens, il parle de la CAQ ou du REM Est. Parce que nous, les Québécois, on a de la chance. Hein. On a la chance de ne jamais avoir été bombardés. À part de taxes. Eh oui, ça ici, ils savent nous bombarder de taxes. Hein. Et c'est chirurgical. Chaque citoyen est touché individuellement et chaque année. Parce que moi, la géopolitique, ça m'intéresse. Mais qu'est-ce que l'Ukraine a apporté à l'humanité, hein ? C'est vrai ça. À part des cancers en 86 avec Tchernobyl,
oui.
Pour ceux qui ont les références.
Oui.
Mais moi, je trouve les Ukrainiens très sympathiques. Oui, de voir des milliers d'hommes et de femmes hier à Kiev encore, agitant des drapeaux jaunes et bleus en masse pour saluer les efforts de diminution des prix des épiceries Maxi. C'est très sympathique, hein, vraiment. S'il y a la guerre qui éclate, j'ai pas envie de faire la file au rayon PQ comme d'habitude, hein, dès qu'il y a un conflit. Alors PQ, chers auditeurs, c'est pour papier de toilette, hein. C'est pas pour le parti politique transparent. D'accord. Alors un rapide résumé, d'accord ?
Oui.
Poutine a décidé qu'il voulait offrir l'indépendance aux pro-russes et qu'il était prêt à les aider, d'accord ?
Oui.
Bon, j'espère qu'il n'y a pas trop de pro-russes au Québec, hein. On ne sait jamais que ça leur donnerait des idées. Ensuite, le plus inquiétant, François Legault. Peut-on être raisonnablement optimiste quand il dit « gérer la situation » Quand on voit tous les rapports et études qu'il accable sur sa gestion de la pandémie, on peut avoir des doutes. Mais il n'est pas tout seul à dire ou faire des conneries. Hein. Oui, oui.
Oh non, non.
Non.
Il a des amis.
Oui, oui. Dans mon propre pays d'ailleurs, hein, le Premier ministre belge a dit « L'Occident ne peut pas tendre indéfiniment un rameau d'olivier ». Alors, amadouer Vladimir Poutine par la littérature, À mon avis, Poutine doit se dire que Gogol n'est pas qu'un auteur russe. Et il ajoute, l'armée belge est prête. Non mais, depuis quand Passepartout irait-il se lancer en MMA, hein? Il faut savoir que nos F-16, ces avions qui oui. datent des années 80, se tirent dessus dans leur propre hangar. Qu'on n'a même pas le REM à Bruxelles. Hein? Bon, je veux bien qu'on bluffe, mais on n'a pas des avions furtifs, mais juste des tanks fictifs. Okay? Les seuls abris anti-atomiques qu'on a, ce sont les stations de métro. Au Québec, la seule armée que l'on a, c'est une armée de politiciens. Alors, utilisons nos qualités. Hein? Nous sommes les rois du compromis. Tentons d'imposer notre mode de vie politique aux Russes. Oui. Dans 6 mois, ils auront 14 ministres et responsables de la santé, ou de l'éducation, ou de la justice, et ils ne se mettront jamais d'accord pour prendre une décision. Ça, c'est avoir de l'influence. Et je ne parlerai pas du Bayon. Hein. Et que dire ? Que dire de Valérie Plante, qui doit subir tempête de neige sur tempête de neige, en n'arrivant pas à déneiger les rues et les trottoirs ? Vous imaginez si elle était à la place du président ukrainien Zelensky ? Le bordel que ce serait ! Le pire, c'est que les pistes cyclables, elles, sont parfaitement déneigées et opérationnelles. Les vélos peuvent se déplacer sans problème, mais les gens, eux, doivent se casser la gueule en marchant sur les trottoirs. Ah non, non, les vélos sont les rois. Quelle est l'idée politique de privilégier 2 ou 3 abrutis qui font du vélo en pleine tempête à moins 20 degrés plutôt que des centaines de piétons toutes les heures, hein ? Je pose la question. Moi, je ne sais pas quel est le meilleur système politique entre ici ou là-bas. Hein ? Les Russes ont un président élu avec 97% des voix. Wow. Nous, on a une mairesse élue avec 18% des électeurs. Je ne sais pas quel est le meilleur système, en fait. Bon, il est vrai que Vladimir Poutine, c'est pas celui que tu vas inviter à la fête des voisins. N'y a aucune fête, d'ailleurs. Non, mais il est un peu trop explosif comme garçon. Déjà, tout petit, il ne se rendait pas à l'école. Non, parce que Poutine ne se rend jamais. Et la première lettre... Oui, la première lettre qu'il a envoyée au Père Noël, c'était un ultimatum. Donc, lui, même s'il m'offre du thé au polonium, je le bois, je discute pas, ok ? De plus, maintenant, il faut trouver un autre nom pour le plat national du Québec.
Eh oui.
Car Poutine, ça le fait plus. Hein. D'ailleurs, tout comme les restaurants russes, qui ne sont plus russes, en fait. Hein. Vous avez vu ça ? Ils sont devenus ukrainiens, moldaves, biélorusses, kazakhs, géorgiens. Je n'avais jamais remarqué que la cuisine des pays de l'Est, était aussi variée. Et avec Poutine, indigeste. Heureusement, Arlette, le président Emmanuel Macron est là. Lui, il bosse. Et il n'a pas réussi. Pourtant, lui, il est habitué à gérer les grandes gueules. Hein. Et oui, il en a 65 millions à gérer. Et alors cette table ? Vous avez vu cette table énorme lors des rencontres avec Poutine ? T'as vu ça ? Elle faisait 15 mètres de long, là. Hein. C'est sans mentir. Hein. C'est là qu'on reconnaît vraiment l'influence du docteur Arruda concernant la distanciation physique du Covid. Bon, apparemment, Poutine a voulu humilier Macron. Et il a même déclaré, si ça avait été Sarkozy, une table basse aurait suffi. Et Joe Biden s'en mêle. Ah, Vladimir Poutine, Joe Biden. D'un côté, on a la faucille, le marteau. De l'autre, le fossile complètement marteau. Ah, on est vraiment bien là. Et puis, les États-Unis lancent des sanctions économiques jamais vues contre la Russie. Hein. Oui, oui. $170 le Big Mac et $60 la bouteille de Coca. Bam ! Dans les dents, Poutine. Hein. Et pour couronner le tout, du côté ukrainien, le président Zelensky, il faut le savoir, est un ancien humoriste. Oui, il a débuté sur les planches en stand-up. Tu savais ça ?
Ah non, pas du tout.
Oui, tout à fait. Avant de monter sa propre émission satirique avec sa troupe de comédiens. Donc, si je dois me préparer, vous me le dites. Hein. Maintenant, vous pouvez m'appeler président, car moi, je suis prêt.
Musique.
Je t'en aurai
Alors, on vient d'entendre l'Arche qui nous chantait « L'histoire n'est pas finie ».
Et
combien. Germain Stoucki, je voudrais qu'on parle du théâtre de la Comédie où, oui, ce week-end, tu entamais une nouvelle pièce de théâtre.
Oui, qu'est-ce tout à fait. On a démarré, donc c'était vendredi dernier, « Deux filles, un gars ». Ça n'a rien de sexuel, même si on en parle dedans. Non, c'est simplement une comédie loufoque où trois amis se retrouvent en discothèque. Et puis, c'est toutes les niaiseries que l'on peut se raconter quand on est discothèque, surtout entre filles.
Alors, les discothèques datant d'avant 2000 ou les discothèques aujourd'hui ?
Pour moi, ça n'a pas changé, parce d'accord, qu'aujourd'hui, elles sont encore fermées. Donc
oui, c'est vrai.
On va dire. Et ça, je l'ai dit sur scène deux fois. Hey, ça vous fait chier, on peut danser, vous toujours pas. Hein. Parce qu'il y a un peu un part d'impro. Avec un personnage complètement loufoque que je joue.
Tu m'étonnes qu'il soit loufoque.
Ouais,
je suis surprise.
Je me lance dans un nouveau genre, entre guillemets. Mais je n'en dirai pas parce que je perds mon punch sinon. Mais ouais, c'est ça. C'est avec Carole Thomas qui joue avec moi dans Couscous au bacon. Et puis Edith Cardinal qui joue avec moi dans
Couscous au bacon. Talentueuse Edith.
Donc on est tous les trois et c'est vraiment très très drôle. C'est le fun, il y a 3-4 moments forts, la fin à un moment donné dedans aussi, voilà, c'est léger, mais ça a fait énormément de bien, les gens ont adoré justement parce que c'était léger, il n'y avait pas de prise de tête, c'était, et puis voilà, c'était le fun, c'était ambiance un peu discothèque, et donc voilà, et là c'est là toutes les semaines maintenant, c'est le nouveau spectacle du printemps.
Tu veux pas nous en dire trop sur ce qui se passe, je le conçois, il faut qu'on aille payer nos places et puis aller voir le spectacle là-bas. Par contre, quel genre de musique t'as choisi dans la discothèque ? Ça, tu peux nous le dire ?
Ah, c'est des tubes des années 80.
Ah oui, j'en étais sûr.
Mais ça dépend. Mais non, c'est 90. Il y a un Bruno Mars 2000. Mais c'est des trucs qui sont faits pour danser. Donc, ce n'est pas de la musique techno. C'est pas. Il y a un Lenny Kravitz. C'est assez varié. C'est très punchy, vu que ça doit être en discothèque. Mais je suis sorti des années disco 70, si c'est ça que tu veux savoir. Quoique c'est la meilleure musique pour danser.
Oui. Mais est-ce que, par hasard, parce que ça va faire partie des choses qui vont m'amener à venir voir cette pièce, mais je vais quand même venir la voir, même si ce n'est pas le cas. Est-ce que, par hasard, Germain Stucki, sur scène, tu bouges ton corps de rêve, mais tu bouges.
On bouge tous les trois notre corps de rêve. Nous sommes en discothèque, donc nous bougeons nos corps. Bien, ça je ne sais pas.
Mais en tout cas, vous le bougez.
On pourrait dire que j'ai le rythme dans le sang, mais une mauvaise circulation.
Ah, je l'aime celle-ci. Est-ce que j'aurai le droit de m'en servir, s'il te plaît ?
Si tu veux. Elle est sortie du spectacle, mais tu peux. C'est fait pour.
J'adore. J'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est proposé ?
Et donc aussi, juste petite parenthèse, c'est que donc ça a été à partir de samedi, depuis samedi dernier, le passeport vaccinal n'est plus exigé. Donc ça a fait du bien aussi. Ouais. C'est pas qu'on a récupéré plein de gens qui n'étaient pas vaccinés, mais ça a fait du bien de ne plus avoir cette contrainte.
De ne plus avoir cette ligne d'attente et de pouvoir rentrer comme on rentre d'habitude.
Parce que c'est une contrainte de vérifier, de machin. Là, tu vérifies ton billet, zim, tu rentres, tout va bien.
Et puis d'amener sa carte aussi, en plus. Faut pas oublier.
Donc, c'est un peu côté policier. Oui. Donc ça a fait énormément de bien. On l'a senti samedi. Après, on est content de revoir les gens. Il n'y a pas encore forcément des foules, mais ça revient tout doucement. Les gens, par contre, sont très, très heureux d'être là. Ça, on le voit depuis qu'on a rouvert. Et donc, ce qui vient après, il y a lundi prochain, je lance un, entre guillemets, nouveau concept, c'est pas forcément un concept, mais un nouveau type de spectacle d'humour qui va s'appeler les soirées tout ou rien. Ce sont des...
Ça fait peur ce titre.
Pas du tout.
De connaissance, ça fout la trouille.
Pas du tout. Ce sont des soirées où des humoristes, c'est les lundis soirs à 20h, un lundi sur deux, où des humoristes vont venir présenter des textes qu'ils ont fraîchement écrits. Pas des numéros qu'ils ont déjà joués partout.
D'accord. Donc
ils sont obligés de proposer de tout nouveaux textes à chaque fois qu'ils vont venir.
On peut connaître l'humoriste, mais on ne s'attendra pas à ce qu'on connaît déjà de lui.
Voilà, ou il n'aura pas joué ça chez nous à la Comédie de Montréal.
D'accord.
Et l'idée, en fait, c'est que... et donc, du coup, quand tu viens faire quelque chose que tu n'as jamais fait, ça peut être bon ou pas. D'où le tout ou rien. Et en fait, du coup... Ça nous
c'est,
oblige
c'est le public
à travailler.
Qui juge.
Ouais, mais nous aussi, ça nous oblige à travailler du coup. Parce qu'on tombe dans une. Pour certains artistes que je rencontrais, je les voyais toujours avec le même numéro. Et je dis, oui, mais amène quelque. Et tu sais, c'est un côté un peu fainéant, paresseux. Et là, ça va les obliger, s'ils veulent participer à ça, à devoir écrire. Tu vois ? Et du coup, le public, comme tu dis, va pas forcément être juge, mais va participer à la création.
Oui.
Par rapport à ça, on va dire, bon, vous avez apprécié, c'est bon, il peut revenir. Ok, il y a des trucs à travailler, tu peux encore revenir une fois. Mais en ayant travaillé, ou écoute celui-là, oublie-le, hop, et puis on peut passer à autre chose. Mais le public est averti, donc il ne va pas y avoir une mauvaise ambiance. Et les artistes n'ont pas de pression. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, quand ils se produisent,
oui.
Que ce soit au bordel, dans un bar, dans un machin, etc., ils sont souvent payés. Et donc ils ont une pression de qualité. Ils ne peuvent pas tester ce qu'on appelle du nouveau matériel. Ou alors ils doivent aller dans des soirées un peu open mic, et c'est toujours un petit peu délicat, parce que ça reste toujours des bars. Nous, on est dans un contexte quand même de. Entre bar et salle de spectacle, café-théâtre.
Oui.
Donc, ça reste une Rolls-Royce pour tester les trucs. Et c'est ça que je voudrais essayer et récupérer peut-être des jeunes de l'école de l'humour qui pourraient venir tester et pratiquer parce qu'ils n'ont pas l'occasion de pouvoir peut-être aller ailleurs.
Alors, quelle a été dans ta proposition la réaction et de ceux qui sont sur scène et la réaction du public quand on a parlé ?
Écoute, j'étais un petit peu... pas frileux, mais j'avais un petit peu peur que les artistes n'osent pas jouer le jeu, qu'ils soient un petit peu réticents. Ce matin, j'ai booké, j'ai déjà donc lundi qui est complet, le 4 avril, où j'ai quasiment ma programmation. Donc, on verra le soir des shows, mais ça répond plutôt positivement. Et au niveau du public aussi, parce que on a déjà quasiment demi-salle de rempli pour lundi prochain. Il reste encore, mais venez. C'est une entrée libre avec une participation au chapeau à la sortie.
Ah, ça, c'est bien.
Donc, ça permet, le chapeau permet de pouvoir, on se le partage après avec les artistes pour qu'ils aient un petit quelque chose quand même, parce qu'on ne peut pas garantir un cachet dans ce genre de choses. Et donc tout le monde est gagnant, le public, parce qu'ils vont découvrir vraiment quelque chose, ils vont avoir une ambiance particulière. Moi j'anime et je vais tous les lundis, enfin aux 15 jours, amener de nouvelles choses. C'est la radio ici qui m'a donné ça, le fait de travailler avec toi, que tous les lundis je devais avoir une chronique, m'a refait démarrer ma créativité. Et c'est ça que je voudrais, pas inculquer, mais passer à nouveau, plus avec les 2 ans qui viennent de passer, où ils n'ont pas pu écrire, machin, que du web, que de l'internet, tout ça. Je voudrais qu'on puisse refaire ça. Donc, non, il y a un très bon retour par rapport à ça.
Une question aussi, est-ce que Bon Baiser de Russie va se retrouver sur scène ?
Je n'en sais rien, peut-être pas en entier, mais certains bouts que je trouve très très bien. Mais oui, il y a des chroniques que j'ai écrites il y en a déjà, je l'ai fait via YouTube parce que j'ai ma chaîne Jamin Shtouki où j'en faisais quelques-unes. Mais c'est surtout pour donner la chance aux artistes de venir sans pression, sans stress. Ils n'ont rien à me prouver à moi, c'est à eux qui vont se le prouver. Parce que le public, il sait, soit ça va être bon, soit ça va être pas bon, je sais pas, je vais découvrir quelque chose. Je m'attends pas à, quand je vais dans une soirée, à l'humoriste doit me faire rire. Non, là, il se peut que je vais peut-être pas forcément rire, tu comprends ? Et c'est ça qui est important au jour d'aujourd'hui. Et pour travailler de manière sereine, on travaille souvent de manière plus efficace.
C'est bien. Écoute, tant mieux. En tout cas, moi, je te souhaite beaucoup de bonheur et du côté du public, eux, ils ont tout de suite aimé l'idée.
Je t'avoue que j'étais surpris qu'on ait déjà autant de places de réservées.
T'en as parlé quand
Ça va faire une petite semaine seulement au niveau du public.
D'accord.
On a commencé la vraie promo là. Les artistes, j'avais sondé depuis un mois ou deux, un mois et demi, quand on savait à peu près qu'on allait reprendre.
C'est sûr que dans le principe, c'était mieux de les sonder eux avant.
Ouais, mais tu sais que je suis quand même fou et que malgré tout, je me serais lancé.
Oui, je sais, oui.
Donc, mais ils comprennent la démarche. Maintenant, le deuxième cap, ça va être est-ce que dans le temps, ils vont tenir la démarche ?
Oui.
C'est ça que je me pose comme question. Je sais que le talent, ils l'ont. Parce que est-ce qu'ils vont jouer le jeu ? Est-ce qu'ils vont trouver leur envie ? Est-ce qu'ils vont trouver leur créativité ? Il y a assez d'humoristes à Montréal pour en avoir 6, 7 ou 15 jours.
Oui.
Mais
on peut pas savoir d'avance. Et une fois qu'ils seront sur la scène et qu'ils créeront quelque chose, qu'ils vont se rendre compte au fur et à mesure. Et puis la plupart du temps, ils savent aussi faire de l'impro. Donc peut-être que l'énergie du public va les aider à aller encore plus loin. T'en sais quelque chose, toi.
Tout à fait. Mais moi, je suis convaincu. Alors, parce que c'est comme ça que j'avais démarré. Maintenant, je dois essayer de les convaincre eux parce qu'ils ont une peur en fait. Et de leur enlever cette peur parce qu'on vient avec des choses.
On viendra.
qui connaissent pas dans le milieu forcément, tu sais, l'idée du café-théâtre.
Bon, on verra la surprise.
Bah, je
de
te
toute
tiendrai
façon.
Au courant.
Moi, je viendrai le 4 avril.
Avec plaisir.
Voilà.
Donc, et puis, il y a plein d'autres choses encore.
Pour l'instant, ben, on va faire une chanson souvenir de Michel Legrand qui s'appelle Les Moulins de mon cœur et qui sont interprétés avec la merveilleuse voix de Juliette Armanet.
Comme une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau, comme un manège de lune avec ses chevaux d'étoiles, comme un anneau de Saturne, un ballon de carnaval, comme le chemin de ronde que font sans cesse les heures, le voyage autour du monde d'un tournesol dans sa fleur. Tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur. Ce jour-là près de la source, Dieu sait ce que tu m'as dit, mais l'été finit sa course, l'oiseau tomba de son nid, et voilà que sur le sable, nos pas s'effacent déjà. Et je suis seule à la table qui résonne sous mes doigts, comme un tambourin qui pleure sous les gouttes de la pluie, comme les chansons qui meurent aussitôt qu'on les oublie, et les feuilles de l'automne rencontrent des ciels moins bleus, et ton absence leur donne la couleur de tes cheveux. Comme une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau, au vent des quatre saisons, tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur. As the images unwind like the circle that you find in the windmills of your mind.
Et voilà, donc nous sommes à la fin de cette émission. Merci à Juliane Rangé-Beauregard, à Germain Stucki.
Oui.
Merci à Nicolas Wartmann pour la technique et les chansons. Et puis merci à vous toutes et tous surtout de nous avoir suivis. On vous souhaite une excellente soirée. Et puis on vous dit à demain. Et puis n'oubliez pas, 4 filles, théâtre Denise Pelletier, théâtre de la comédie. Donc vous avez de quoi sortir, profitez-en, amusez-vous. Bye bye à tout le monde.
Bye bye. Au revoir.